Michel Berger, quelle drôle d'idée. C'est par ces phrases que Bruno Baillon, journaliste musical éminent aux grandes heures de Libération, ouvre la postface d'une biographie dédiée à Berger Michel. Cette biographie, ce n'est pas Baillon qui l'a signée, mais Yves Bigot. Et il a choisi le titre suivant. « Quelque chose en nous » de Michel Berger, publié aux éditions Don Quichotte. Le Pop & Co du jour est donc un Pop & Michel, au moment où une anthologie de 13 CD vient d'être publiée. Berger, c'est ce chanteur des beaux quartiers parisiens qui se rêvait rocker sans jamais vraiment y être arrivé. Et pourtant, il a déplacé le curseur de la chanson française dès le début des années 70 en réalisant le premier album de Véronique Sanson. Et puis il y eut Françoise Hardy, France Gall, Balavoine, Johnny, une façon d'écrire qui a tranché radicalement avec la chanson française Rive Gauche des Brassens ou Barbara, autant qu'avec les Yéyés. Des textes sans chichi, qu'on a retenus, et pour les mélodies, c'est idem. L'histoire de Michel Berger, c'est aussi celle de la production musicale française qui rêvait d'Amérique, parce que dans les années 60, quand il a eu 20 ans, l'Amérique faisait encore rêver. Aimer Michel Berger ? De notre côté, nous avons tranché. Jusqu'à midi, à vous de vous faire une idée au fil d'une heure où il sera autant question de Ray Charles, Jimi Hendrix ou Alain Souchon. Bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Il se prépare quelque chose, il se passe quelque chose.
Telle est la teneur de l'émission 16 millions de jeunes qui avait d'ailleurs pour sous-titre « La sono était pourrie ». Nous sommes dans la France de 1963. Le général de Gaulle rejette la candidature du Royaume-Uni pour son entrée dans le marché commun. On inaugure le tout premier hypermarché à Sainte-Geneviève-des-Bois en Essonne. Mais l'important, c'est pas ça. C'est ça.
50 milliards d'anciens francs, voilà ce que les moins de 20 ans dépensent en France par an, et cela surtout pour s'acheter des disques. C'est un marché qui n'est pas négligeable, mais alors qu'hier, ils achetaient un peu n'importe quoi, aujourd'hui, ils arrivent, semble-t-il, à faire une sorte de sélection.
J'ignore si mon collègue approuvait la sorte de sélection qu'avait fait la jeunesse en cette année 63. En tout cas, voici ce qui tournait sur les TEPAZ.
Pour moi, la vie va commencer.
Et puis aussi...
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux.
Et puis encore...
Pipa blue, she's my baby. Pipa blue, don't make me baby. Pipa blue.
Là au milieu arrive Michel Amburger, dit Berger, qui fait sa toute première télé pour les caméras de l'émission Discorama, et l'on nous fait les présentations.
Ôtez quelques années au Radiguet du Diable au corps ou au Rimbaud d'une saison en enfer, vous aurez l'âge non pas du capitaine, mais de Michel Berger.
En clair, il a 16 ans, mais il en paraît 12. Malgré sa cravate et son complet veston.
Le diable qui l'habite ne lui souffle rien que de très avouable. Ses revendications, le droit au twist, ses révoltes, elles visent uniquement la camomille et les tasses de thé.
En 63, les textes de Michel Berger sont écrits par Jean Brousse, un copain qu'il avait rencontré en 6e.
J'aimerais me promener avec des amis ou bien aller danser. Oui, j'en ai assez des tasses de thé pour les camomilles en famille.
Oui, bonjour, j'ai rendez-vous avec Yves Bigot, s'il vous plaît.
Installez-vous, on va prévenir que vous êtes là.
Nous sommes à TV5, dont Yves Bigot est le directeur général. Yves Bigot est aussi l'une des plumes du magazine Rolling Stone et il est l'auteur de la biographie intitulée « Quelque chose en nous » de Michel Berger.
Michel Berger, il est le fils du professeur Jean Amburger, trois fois académicien, de la concertiste Annette Haas, concertiste suisse, et il a une éducation de très grands bourgeois, de très très haut niveau.
Des mains
prépare les trois enfants à devenir comme leurs parents, des têtes. Et évidemment, le yéyé n'a rien à faire là-dedans, ne serait évidemment la musique.
Et que fait Michel Berger en pleine révolte estudiantine de mai 68? Il termine ses études de philo et défend une maîtrise intitulée « Esthétique de la pop musique ». Il y fait une étude comparée des deux premiers albums de Jimi Hendrix et il écrit aussi des chansons sous le pseudo de Michel Hürsel. Il signe la musique de ce tube de l'année 69. Jean-François Michaël vient de le dire.
Adieu.
Cette chanson, composée par Berger, c'est « Adieu, jolie Candy ». Et dans ces mêmes années, Michel Berger signe aussi la musique de ceci.
Les girafes au long cou.
Les girafes par Bourvil.
Se promènent dans l'été brûlant, si lentement.
Comment il se retrouve là ?
Après sa carrière de petite vedette yéyé, Michel Berger veut rester dans la musique et devient donc directeur artistique chez Pathé Marconi, à côté de Gérard Manset, par exemple. Il y a la meilleure équipe de directeurs artistiques de Paris à ce moment-là. Ça fait partie de sa personnalité. Je veux tout explorer, je veux tout comprendre. Il négociait lui-même ses contrats. Il a monté très vite sa société d'édition. C'était quelqu'un qui avait une vision globale de son métier.
France Inter, il est 13h, 1 minute et 30 secondes.
Nous sommes alors le 6 juillet 1971.
Interactualité Magazine, Yves Mourouzi.
Bonjour.
Ce jour-là, Yves Mourouzi reçoit Michel Berger pour une œuvre qui s'intitule Puzzle, concerto pour piano, groupe pop et orchestre symphonique. Et la voici. Les anglo-saxons, des Beatles à Pink Floyd, avaient déjà mélangé rock, classique, initié des collaborations avec des orchestres. Et les Français s'y mettent aussi. Gérard Manset signe La mort d'Orion, oratorio rock symphonique. William Scheller compose Lux Aeternae, messe symphonique. Et Berger, fan de Gershwin, décide lui aussi de mêler jazz, rock et classique dans cette nouvelle œuvre. Il claque tous ses droits SACEM pour payer l'enregistrement d'un ensemble de 80 musiciens.
Moi, j'ai fait des études qui sont très différentes, des études de philosophie, et j'essaye maintenant de rattraper le temps perdu et de mettre à la composition musicale.
Brûler les étapes.
Voilà, brûler les étapes, j'espère, parce que vous savez, il faut beaucoup de temps pour écrire des choses comme ça. D'habitude, on commence très tard, et je crois que c'est un peu dommage, enfin.
Alors, je rappelle votre nom, Michel Berger, et ce concerto pour piano, groupe pop et orchestre symphonique. Première étape d'une longue carrière, peut-être.
Mais Puzzle fait un four. Et Michel Berger fait une rencontre.
Véronique Sanson, bonjour.
Vous n'avez sans doute pas entendu son bonjour timide. Nous sommes à nouveau dans l'émission Discorama avec Denise Glaser. Ce sera le 16 juillet 1972, Véronique Sanson a 23 ans.
J'aimerais bien vous donner une phrase musicale a cappella comme ça, dans la mesure où vous chantez juste, c'est sans danger, s'il vous plaît.
Le matin, on ira voir l'eau de Bayard. Il n'y a pas d'ouragan, c'est un mot païen. Les jours de pluie, ça n'existe pas. Les jours de pluie ne reviendront pas. Et je t'aime, caresse-moi.
Le premier album de Véronique Sanson s'intitule Amoureuse. Il est réalisé par Michel Berger, qu'elle aime. Et on va parler de style Berger.
Il faut bien appeler ça le style Berger-Sanson. Parce que c'est un style qu'ils ont inventé tous les deux ensemble, même s'ils n'ont jamais écrit une chanson ensemble. Hein. Mais c'est quand ils vivaient ensemble, ils ne dormaient pas forcément ensemble, hein, parce que chacun, c'était une époque hein, où on rentrait dormir chacun chez soi, hein, parce que les parents ne toléraient pas ça, même à 20 ans. Hein, et ils revenaient le lendemain pour se montrer les chansons qu'ils avaient écrites les uns les autres. Il y avait une émulation, une compétition entre eux qui était formidable, mais ils ont inventé ce style vraiment ensemble.
Une nuit, je m'endors avec lui. Qu'on nous l'interdit. Et je sens la fièvre qui me mord. Sans que j'aie l'ombre d'un remords. Et l'aurore m'apporte le sort.
C'est quoi ce style qu'ils ont inventé à deux alors ? Dans quelle mesure le premier album de Véronique Sanson, qui est publié avant le premier album de Michel Berger, c'est elle qui éclôt la première, dans quelle mesure, avec cet album-là, il pose une balise dans l'histoire de la chanson française ?
Le premier album de Véronique Sanson, c'est une révolution absolue. Les musiciens hein, qui jouent à l'américaine, c'est un son direct, qui n'est pas baigné dans l'écho, qui n'est pas surchargé, c'est... Voilà, d'une proximité jamais auparavant en France et en français. On avait écrit des chansons aussi à la fois intimes, avec un phrasé qui donne à la fois autant de modernité et d'intelligence. Déjà, le français, c'est une langue extrêmement compliquée pour chanter rythmiquement. Et eux, ils vont travailler beaucoup là-dessus, Véronique et Michel Berger, sur comment faire sonner le français. Qu'est-ce qu'il faut chanter comme syllabe? Comment il faut découper les mots sur la musique? Jusque-là, il n'y a guère eu que Michel Polnareff qui s'en est préoccupé. Mais Véronique, elle va amener un truc qui est la musique de Carole King, la musique de Joni Mitchell, la musique de Crosby, Stills, Nash & Young. C'est une nouvelle façon d'aborder comment on chante en français sans avoir l'air ringard, quoi.
Véronique Sanson, elle dit « Quand j'entendais des chansons en anglais, je trouvais qu'il y avait une dynamique des mots qui allait très bien sur ce genre de musique. Pour nous, c'était plus difficile, parce qu'il y avait des « on » et des « en ». J'ai essayé de faire mes paroles avec beaucoup de « l » en les prononçant de façon spécifique. Je choisis mes mots en évitant les sons durs avec des « r ». J'ai toujours fait attention au son des mots, de façon à ce qu'ils épousent au mieux les crêtes et les creux de la mélodie. »
Pour le rencontrer un jour, ni qu'on nous raisonne.
Un jour, Véronique Sanson dit à Michel Berger qu'elle va acheter des cigarettes. Et elle n'est jamais revenue. Elle a filé avec un Américain qui s'appelle Stephen Stills.
Mais elle tombe amoureuse de l'Amérique, elle tombe amoureuse d'une rockstar, d'un guitar héros, elle tombe amoureuse du mythe. C'est-à-dire qu'elle sort du petit monde de la variété française et de Salut les copains, parce que Stephen Stills à ce moment-là, il est l'équivalent de George Harrison ou en tous les cas Crosby, Stills, Nash & Young, c'est les Beatles américains. C'est-à-dire c'est le top du top et puis de la liberté. En plus, Stills c'est le plus dingue des quatre. Ils peuvent tous se permettre. C'est des demi-dieux. En France, il n'y a pas de demi-dieux.
Avant son départ, Véronique Sanson publie un deuxième album, toujours réalisé par Michel Berger. Or la chanson, comme je l'imagine, ne parle pas de lui, mais de Stephen Stills.
Comme je l'imagine, il sourit derrière. Comme je l'imagine, il pense bien. Comme je l'imagine, il pourrait même être celui qui sera l'homme que j'aime. Comme je l'imagine, et comme toujours, il va près des gens qui aiment l'amour. Comme je l'imagine, il pourrait même.
À partir de là, va se produire un truc assez inédit dans la chanson française, une correspondance en musique. Véronique Sanson chantera ses regrets, Berger y répondra, etc., etc. Romanesque, je crois qu'on ne peut pas plus.
Et c'est beaucoup plus fort dès lors qu'ils ne consomment pas. Parce que s'ils consomment, ils vont jamais se retrouver que comme deux amants au lit. Ça ne sera pas plus que ça. Alors que dans l'idée...
Oui, c'est du fantasme.
Mais oui, bien sûr, c'est du fantasme pur et du souvenir et de la nostalgie de ce qui aurait pu être, de ce qui ne sera pas.
La production de ce premier album de Véronique Sanson, qui s'intitule Amoureuse et qui crée une rupture dans l'histoire de la chanson française, ça va donner des idées à d'autres, et notamment à Françoise Hardy.
Françoise Hardy va, comme beaucoup de monde, tombée complètement amoureuse du premier album de Véronique Sanson, de ce son, ce groove, de cette intimité, de cette expression tellement directe qu'elle va contacter Michel en lui demandant de lui écrire des chansons et de la produire de la même façon qu'il l'a fait pour Véronique Sanson. Il écrit Message personnel, hein, cette chanson magnifique, qui est en réalité adressée à Véronique Sanson, partie de l'autre côté de l'Atlantique. Mais il va dire à Françoise, il faut que toi, tu écrives une introduction parlée à ce morceau-là. Et elle va répondre d'ailleurs de manière magnifique en s'inspirant, elle, de sa relation avec Jacques Dutronc.
Au bout du téléphone, il y a votre voix. Et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire. Qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire et je voudrais les vivre. Je ne le ferai pas. Je veux, je ne peux pas. Je suis seule à crever et je sais où vous êtes. J'arrive, attendez-moi, nous allons nous connaître. Préparez votre temps, pour vous j'ai tout le mien. Je me déteste, je n'arriverai pas, je veux, je ne peux pas. Je devrais vous parler, je devrais arriver, ou je devrais dormir. J'ai peur que tu sois sourd, j'ai peur que tu sois lâche. J'ai peur d'être indiscrète. Je ne peux pas vous dire que je t'aime, peut-être.
Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. Et cours, cours jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent, viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe.
crois un jour que tu m'aimes. Ne le considère pas comme un problème. Et cours et cours jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, n'attends pas un jour, pas une semaine. Car tu ne sais pas où la vie t'amène. Viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi. Mais si tu...
Il y a cette outro, comme on dit. Hein, à la fin, comme ça, où la voix de Françoise reste en l'air et son expression reste en l'air, et c'est l'orchestre qui sort. C'est une spécialité britannique de faire ça, mais ça laisse ce point d'interrogation. Et...
Mais si tu...
Entre Michel et Véronique, si entre Jacques et Françoise.
L'année de cette chanson, message personnel, Michel Berger publie son premier album solo. Il s'intitule simplement Michel Berger.
Il faudrait avoir rencontré l'amour, le vrai. Vous comprenez le grand amour et savoir qu'après, à quoi sert de vivre encore?
Sur la pochette de ce disque, il y a un dessin de cœur brisé. Cœur brisé, c'est d'ailleurs comme ça qu'on appellera cet album finalement. Et en plus, le disque ne rencontre pas le succès. Yves Bigot.
Michel Berger va mettre très longtemps avant de s'imposer comme interprète. Il y a plusieurs raisons à ça. Il n'est pas un aussi bon chanteur et un aussi bon vocaliste pur que le sont Véronique Sanson, Françoise Hardy ou France Gall. Aujourd'hui, Michel Berger, comme chanteur, il n'aurait pas de problème. On a plein de chanteurs avec des petites voix. À l'époque de son premier album, au début des années 70, ben pour être chanteur, faut avoir de la voix. Alors, soit une très belle voix, très souple, magnifique, comme Polnareff, soit il faut avoir une voix puissante.
Du coffre.
Voilà, comme celle des rockers, ou un phrasé avec le cynisme de Dutronc, etc. Mais Michel, il n'a pas tout ça. Comme il est un pianiste timide, il est aussi un chanteur timide.
Mais au mi-temps des années 70, la donne ne sera plus tout à fait la même. Une série de garçons français redessine la figure du chanteur. L'un de ceux qui boxe dans cette catégorie s'appelle Alain Souchon.
Je suis qu'un méga frime, bourré d'aspirine. Un guy just go with my pince à vélo. Je suis bidon.
Michel Berger, avec sa petite voix et sa politesse exquise, il présente une nouvelle sensibilité, beaucoup moins...
Testostéroné.
Moins couillu.
Voilà.
Il y avait Polnareff avant lui, d'ailleurs, qui avait été suspecté hein, d'une virilité chancelante. D'ailleurs, il était sorti avec « Je suis un homme » hein, pour lutter contre cette image qu'on voulait lui coller, puisque on était dans une époque où ne pas être un gros macho, c'était se poser des questions sur votre virilité, sur votre sexualité.
Attends-moi, laisse le silence pénétrer en toi.
Michel Berger fait partie, et il est sans doute un des précurseurs de cette nouvelle génération, dans ce qu'on va appeler les nouveaux hommes, etc., qui sont sensibles, qui ont le droit de pleurer, qui font attention aux autres, qui sont des bons pères. Et il y aura beaucoup de doutes aussi sur sa sexualité, hein. La plupart des gens sont persuadés à l'époque que Michel Berger, France Gall, c'est peut-être un alibi.
Attends-moi, je saurai bientôt la vie comme elle veut. Par un baiser ou par un adieu.
C'était peut-être un archétype du nouvel homme, mais dans le nouvel homme, il y a homme aussi. Et puis c'était un super dragueur.
Cela dit, pour Michel Berger, au départ, travailler avec une jeune femme comme France Gall, eh ben c'est non.
Quand France Gall a sollicité Michel Berger pour qu'il lui écrive des chansons et pour qu'il la produise, Michel n'était pas du tout intéressé. Il détestait, je pense que Sacré Charlemagne était la chanson qu'il détestait le plus au monde, et il trouvait qu'elle faisait absolument n'importe quoi. Elle enchaînait bide sur bide avec encore un petit succès en Allemagne, avec un répertoire allemand que personne ne connaît ici mais qui fait froid dans le dos. Et c'est elle qui va quasi forcer Michel à la produire, mais elle va financer ça. C'est-à-dire qu'elle va payer Michel pour qu'il aille en studio avec ses dernières économies. C'est-à-dire elle va quasiment faire tapis, hein, comme au poker. C'était vraiment ça passe ou ça casse.
Et puis...
Je lui ai écrit un texte que j'avais envie qu'elle dise.
Berger est au piano et à côté, il y a Gainsbourg, une fesse posée sur le même tabouret. Nous sommes sur TF1, l'émission s'appelle Numéro 1, et Michel Berger raconte à Serge Gainsbourg l'histoire de sa toute première chanson pour France Gall.
Puis elle y a tellement cru que finalement, ça s'appelait La Déclaration.
Oui, interférence avec la vie privée aussi.
Quand je suis seul et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout bas.
Qu'est-ce que tu fais?
Une déclaration, non, toi t'aurais écrit autre chose, évidemment. Ma déclaration.
Allez.
Quand je suis seul que je peux inventer, que tu es là tout près de moi, je peux m'imaginer tout bas. Une déclaration. Ma déclaration. Juste deux ou trois mots d'amour.
C'est impossible dans ma bouche.
Pour te parler de nous. Deux ou trois mots de tous les jours. C'est tout. Oui, bien tout. Quand je suis seul et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras.
Carrément la reprise.
Je rêve que tu me fais tout bas.
Qu'est-ce que tu fais cette fois?
Une déclaration.
D'accord, déclaration.
Ma déclaration.
C'est joli, c'est efficace.
Michel Berger, je pense qu'avec Serge Gainsbourg, ils sont les deux épines dorsales de la variété française ou le pop-rock français de ces années-là. Alors pourquoi des épines dorsales? Parce qu'il y a leur carrière à eux en tant qu'interprètes, mais il y a tous ceux pour lesquels ils ont écrit, pour lesquels ils ont produit et autour desquels ils ont déterminé un style.
Et c'est donc l'heure de faire un point route. 1972, Michel Berger participe à l'éclosion de Véronique Sanson. 1973, il relance la carrière de Françoise Hardy. 1974...
Michel Berger va réinventer France Gall.
Alors qu'elle est déjà très installée dans l'oreille et dans les yeux du public français.
Oui, mais il va en faire une star. Jusque-là, c'était une chanteuse yéyé avec des tubes. Là, il va en faire une vraie artiste, avec la sensibilité exacte de l'époque. Et c'est d'une certaine façon stupéfiant, de voir comment Michel Berger va se mettre dans la peau de la jeune fille fan de France Gall, dont France Gall sera la meilleure amie. La musique pop, c'est le cœur d'une jeune fille.
Et le cœur d'une jeune fille est aussi disco et funky.
Faisant taire les mélancoliques avec notre propre rythmique.
Fait le succès de France Gall, c'est cet équilibre entre ces deux choses. Entre d'un côté musique, tout pour la musique, résiste, un peu des, je dirais, des hymnes générationnels, mais aussi toutes ces petites chansons, juste piano, guitare, avec parfois une rythmique ou pas de rythmique, mais qui sont celles qui touchent au cœur, parce que c'est celles qui lui affirment ce public féminin comme à aucune autre. Cette intimité, hein, qui n'avait jamais non plus été chantée de cette façon-là. Personne ne fait attention au fait que c'est un excellent parolier. Ça n'est pas un parolier spectaculaire. C'est un parolier discret. C'est-à-dire que ses paroles, elles sont directes. C'est difficile d'être un homme aussi. C'est lui qui a écrit ça. Ça n'est pas un parolier qui fait de la poésie. Ce ne sont pas des paroles qui sont faites pour être lues sur la page.
Si, maman, si.
Mesdames et messieurs, la cour !
Alors là, autant vous dire qu'on va plutôt quitter le cœur des jeunes filles.
Le socle d'un tribunal, dont on parle dans le journal, qui juge et qui condamne, les messieurs comme les dames, avec nous pas d'innocents, tout le monde il est coupable, nous en faisons le serment avant que vous ne passiez à table.
Extrait du tribunal des flagrants délires, diffusé sur France Inter le 23 décembre 1980.
Accusé, levez-vous.
Oui.
Sans commentaire.
Vos noms, prénoms, âge et qualité.
Alors, Michel Berger.
Oui.
L'âge du Christ. Et qualité, chanteur, je crois. Auteur, compositeur, ACI.
Michel Berger, vous êtes inculpé de proxénétisme, ouais, et de tentative.
Je t'assure, je le savais.
Et de tentative de chantage. Nous allons expliciter ces chefs d'inculpation. Proxénétisme, parce que vous faites travailler votre femme, chacun sait, qui a pour nom France Gall. Et tentative de chantage, car non seulement vous voulez faire chanter tous les chanteurs français en leur vendant vos chansons, et même faire chanter les Français, puisque vous voulez à tout prix imposer en France la comédie musicale, alors que chacun sait, les Français n'aiment pas la comédie musicale, on le répète sans arrêt.
Je ne suis pas d'accord que c'est une idée absolument reconnue, que ça ne marchera jamais, que les gens ne viennent pas et tout, pas du tout.
Mais c'est pour vous entendre dire ça qu'on vous a fait venir.
Ah oui.
L'année précédente, le 10 avril 1979 précisément, Starmania Opéra Rock, avec un livret de Luc Plamondon et une musique de Michel Berger, était créé au Palais des Congrès à Paris.
Starmania, c'est nouveau parce que c'est le premier opéra rock français qui tient debout, parce qu'il a un argument qui d'ailleurs vaut encore aujourd'hui. La dictature des médias, la manière dont un dictateur peut s'emparer des médias justement pour asseoir sa dictature, l'aliénation, une partie du monde qui est souterraine, qui est contre-culturelle, l'autre qui au contraire est dominante, combien les deux à la fois se haïssent mais s'attirent, ça n'a pas vieilli.
Et Starmania révèle un chanteur.
Quand on arrive en ville,
c'est Balavoine.
Tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard. Quand on est on n'a pas le temps d'en avoir content. Nous, tout ce qu'on veut, c'est être heureux. Être heureux avant d'être vieux. On prend tout ce qu'on peut prendre en attendant. Quand on arrive en ville.
Dans les années 80, Michel Berger va enfin avoir du succès en tant qu'interprète. Ça commencera avec la groupie du pianiste. Mais quand même, face à Yves Bigot, j'ai dit,
vous êtes critique rock, vous avez été critique rock, Yves Bigot. Il n'avait pas la carte, Michel Berger.
Michel Berger, il a souffert toute sa vie de ne pas être reconnu par la critique française, rock ou moins rock, parce qu'il estimait appartenir à ce monde-là culturellement, musicalement, mais simplement la vision du rock telle que elle est en France, c'est le blouson noir, c'est les Ray-Ban, c'est d'une certaine façon la loose. Donc il ne peut jamais être reconnu par ce monde-là. Mais ça, ça vient de son éducation. Il est parti de trop loin du rock et c'était quelqu'un de trop positif pour franchir toutes les limites qu'être rock exige.
Vous écoutez Pop & Co sur France Inter. Et l'épisode du jour est dédié à Berger Michel.
Allô, oui.
Voici Serge Perratonnerre. De 1983 à 1992, Serge Perratonnerre a été le claviériste de Michel Berger, sur scène et en studio.
Dans sa tête, il se sentait rocker un peu violent, mais dans la forme, dans le personnage, c'est un mec qui était très gentil, très poli, très bien élevé. Il rêvait de ça, mais bon, il n'avait pas... C'était pas son truc. Et donc, même dans son look, parce que bon, il n'avait pas de look, Michel. Pas vraiment, il ne s'était pas construit un personnage, c'était pas un dandy. Hein. Et je sais pas, un jour, il m'a vu tourner, je suis venu, j'avais une espèce de blouson en jean un peu déchiré, c'était un peu, j'étais pas rasé. Enfin, et il m'a dit, oh, t'es bien comme ça. Ah, c'est bien le jean déchiré, t'es pas rasé. Je sais pas si je pourrais faire ça. Il m'a dit, Michel, vas-y, tu prends un jean et puis tu le déchirais, pas rasé. Puis il a dû se dire, non, c'est pas mon truc. Donc, il pouvait pas. Et d'ailleurs, quand il a fait le titre Diego, ils ont fait un clip. Il est dans un espèce de décor d'une soi-disant, il est dans une cellule de prison, il est assis par terre. Alors, il a un jean, mais qui est propre quand même. Il y a presque le pli. Et il fume une cigarette et il chante Diego, bon, qui est un texte puissant, formidable. Enfin, bon. Mais chanté par Michel, c'est avec sa petite cigarette. Lui qui fumait pas, qui buvait pas, il fait semblant de fumer une cigarette. C'est, je vais pas dire ridicule, mais pas loin, quoi. Ça lui va pas.
Alors que c'est lui qui est à l'initiative avec Pierre Lescure des Enfants du Rock.
Yves Bigot reprend la main dans Pop & Co. Je vous remets le début au cas où vous ne l'auriez pas entendu.
Alors que c'est lui qui est à l'initiative avec Pierre Lescure des Enfants du Rock. Alors que c'est lui qui a fait beaucoup, beaucoup de choses. C'est lui qui s'est battu pour qu'on voit Bachung à la télévision, pour qu'il a fait énormément pour le rock et pour les rockers qui, eux, le rejetaient parce que ils voyaient en lui cette espèce de petit pianiste de variété bourge de Neuilly.
Michel Berger a écrit des textes sur la figure du rocker et des chanteurs. Il jouait du piano debout, hommage à Jerry Lee Lewis, à ce morceau-ci, Les Princes des Villes.
Brillez comme une étoile filante. C'est l'aventure qu'il est temps. Et puis cet étrange pouvoir qui s'est glissé dans le regard. Vivre plus vite que les autres. Avoir un pied dans le futur. Vivre les rêves qui sont les nôtres et obéir à sa nature, puisque rien ne dure vraiment. Et les princes des villes
sont faciles. Et leurs nuits de vinyle sont collées sur les murs. Mais rien n'est vraiment sûr. Et l'avenir fragile pour les princes des villes. Des idées bizarres vibrent au rythme des guitares. Des rock and roll stars.
France Inter, Bob & Co, Rebecca Manzoni.
3615 Saline vous présente la série du soir.
Votre Minitel, il ne demande qu'à vous rendre service.
Cette pub, c'était juste pour vous signifier que nous étions pile au mi-temps des années 80. Juin 1985, précisément, date de sortie de Rock'n'Roll Attitude, 34e album studio de Johnny Hallyday, écrit et réalisé par Michel Berger. Yves Bigot.
Johnny, pour lui, c'est une bénédiction, parce que ça lui permet d'avoir enfin l'interprète qu'il rêverait d'être lui-même, mais il a l'intelligence et le talent de ne pas écrire pour Johnny des chansons qu'il aurait écrites pour lui-même. C'est-à-dire qu'il sait se mettre dans la peau de ce Johnny de ce moment-là, c'est-à-dire du Johnny de Nathalie Baye, qui n'est plus le Johnny de Sylvie Vartan ou de Nanette Workman, ou en tous les cas le Johnny, fils de personne, oh ma jolie Sarah.
Il est dans la rue et tout ça.
Exactement.
Quelque chose en nous de Tennessee.
C'est le nouveau Johnny, et c'est en ça d'ailleurs que Michel va être décisif dans la carrière de Johnny, c'est qu'il va en faire un rocker avec une nouvelle sensibilité, c'est-à-dire qu'il ne va plus passer en force, mais il va sculpter le nouveau Johnny Hallyday, que tous les magazines féminins et masculins d'ailleurs aussi vont présenter comme l'archétype du nouvel homme. Johnny, qui est un personnage qui n'était pas toujours facile, a toujours eu le plus grand respect, la plus grande admiration pour Michel Berger.
Serge Perratonnerre, claviériste de Michel Berger, à nouveau au bout du fil. À partir des années 80, Michel Berger va travailler main dans la main avec Yannick Top, bassiste mythique du groupe Magma, Yannick Top qui vient aussi du jazz et de la musique contemporaine. Aux manettes, c'est lui qui va appeler Serge Perratonnerre pour assurer les claviers, et voici le récit de leur travail en studio.
C'était pas un technicien, c'était pas un grand pianiste ni un grand musicien, Michel. Hein, sa mère l'avait forcé un petit peu à faire du piano. Ça lui suffisait pour jouer du piano et composer. Il voulait pas devenir pianiste.
C'est-à-dire que lui arrivait avec sa mélodie au piano et puis évidemment le texte.
C'est tout.
Mais il arrivait pas avec les arrangements.
Ah, mais il y avait non, pas du tout. C'est nous qui les créons, bien sûr. Sinon, avant. Les albums de Michel, plutôt dans les années 70, c'était avec un arrangeur. C'est-à-dire que Michel travaillait souvent avec Michel Bernolc, qui a arrangé entre autres Starmania en 78. Michel, pareil, lui jouait les morceaux au piano, juste avec son accompagnement basique et les mélodies. Et l'arrangeur écrivait sur du papier une partition pour chaque musicien. Et le jour de l'enregistrement, les musiciens jouaient ce qu'avait écrit l'arrangeur. Et petit à petit, les musiciens ne jouaient plus ce qui était écrit, ils commençaient de jouer ce qu'ils avaient envie. Donc, Michel était aussi dans les premiers Français à travailler avec des groupes. À l'époque, bon, il y avait Véronique Sanson, il y avait Michel Jonas, il y avait toute cette nouvelle génération. Ils ne travaillaient plus avec des arrangeurs où c'était très formaté. Mais de plus en plus, on a fait confiance aux musiciens, c'est-à-dire que les musiciens ont apporté leur savoir-faire intime. Si vous voulez, c'est une sorte de jazz. On a un thème et on joue live, on improvise. Et à partir de là, Michel, bon, ok, bon, la basse c'est super, la batterie j'aimerais mieux, trouve autre chose, enfin, etc. Et puis à un moment donné, bah, le titre est là, on se regarde et puis voilà, c'est ça quoi. C'est vraiment la façon de travailler en groupe. Et là, c'est vraiment l'exemple type de ce que je viens de dire, où on commence à 14h, Michel au piano, il nous joue le titre et on joue par-dessus. Alors quelquefois, le piano devient secondaire parce que nous, on prend tellement toute la place dans l'historique des créations de Michel, il y avait beaucoup de piano au début. C'était moins, enfin, la mode, c'est pas tout à fait ça, mais il y avait une évolution et son piano devenait moins important. Mais on construisait autour de son piano au départ, qui disparaissait comme un, vous savez, comme un dessin, le dessin au crayon de papier, voilà, qu'on fait. Et puis après, bah, on met l'angle de Chine et les couleurs. Et puis après, le dessin en dessous, bon, bah, mais c'est vraiment, la création, c'était le dessin au départ, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Et je pourrais en parler longtemps parce que vraiment, c'est quelqu'un qui m'a marqué, évidemment. Je l'ai connu que 10 ans, mais c'était mes plus grandes années et j'ai jamais connu quelqu'un d'aussi brillant, voilà.
En 1992, France Gall et Michel Berger publient leur unique album en duo. Il s'intitule Double Jeu. Double jeu comme double vie, puisque Michel Berger connaît un nouvel amour. Mais il était aussi question de continuer à faire vivre la légende du couple parfait, noué dans les années 70. Michel Berger meurt d'une crise cardiaque 2 mois après la sortie de ce disque. Il avait 44 ans. Michel Berger fut l'un des façonneurs de la chanson française des années 70 et 80. Il continue de laisser une trace en 2021. Des artistes comme Juliette Armanet, le groupe Electro Justice, Gonzalez ou Cléa Vincent le citent comme référence.
Est-ce que c'est grave si on entend la pluie ?
Pas du tout.
Non, d'accord.
Au contraire.
Il pleuvait, mais Charles de Boisseguin était à l'abri. Charles de Boisseguin est le compositeur et l'un des musiciens de l'Impératrice. Le groupe vient de publier un nouvel album qui s'intitule Takotsubo et le dernier morceau est une reprise de ceci. Tant d'amour perdu, chanson qui figure sur Beau Rivage, 7e album solo de Michel Berger paru en 81.
J'étais fasciné par l'arrangement, par l'émotion, la mélancolie extrême qu'il y avait dans ce morceau. Et surtout, alors il y a quelque chose qui m'a marqué dans l'arrangement du morceau, c'est l'utilisation de la basse qui est très très peu commune. Et là, il l'utilise avec un effet dessus qui donne presque le son d'un orgue. Et je trouvais que cette texture-là, ajoutée au chœur, ajoutée à ce tempo, ajoutée à ces accords, une espèce de descente en quinte assez classique et tout, très Michel Legrand, c'est instantané, même si c'est triste, on a envie de danser tout de suite, on hoche la tête, ça fait quelque chose physiquement, quoi. Le fait de savoir, en ayant recherché, même en l'ayant deviné un petit peu tout de suite, qui s'adresse à Véronique Sanson, je l'ai fait écouter aux autres, ils m'ont dit, mais il est magnifique, reprenons-le, quoi.
Et en ce moment, le titre de l'Impératrice qui tourne sur France Inter, c'est Peur des filles. L'une des filles de Pop & Co s'appelle Ilinka Negulesco, elle s'occupe de la recherche de sons et de docs. Et les garçons s'appellent Coy Nguyen, réalisateur, et J.B. Audibert, programmateur musical. Et ils n'ont pas peur.
Même chose.
La semaine prochaine, Pop & Co sera Pop and the Doors et on entrera dans les coulisses d'une chanson de Rover. À samedi.
Ça va pas leur suffire de les séduire, leur offrir des coquelicots. Elles vont venir pour te punir. Tu sais bien qu'elles veulent ta peau. Pour toi, ni mot de rendez-vous, mais un coup de genou bien en place. Tu imagines le fiasco si en plus elles sont costaudes.